rapidement à la gouvernance.
C'est ce qu'on va faire. On va passer à la deuxième table ronde pour tenir les délais. Alors, monsieur Philippe Meyer, Marie-Véronique, voilà. Et puis Carole, donc tu commences.
D'accord.
C'est donc la gouvernance.
Voilà. Donc, comme je vous le disais, il y a plusieurs chapitres, hein, ce rapport que vous pouvez aller voir sur Internet, qui est téléchargeable sur le site de la NCREAI. Mais encore une fois, on a choisi deux axes, les effets d'une part et la question de la gouvernance, puisqu'on l'a déjà pas mal abordé dans la formation ce matin, puisque c'est quand même ça qui change des choses dans le cahier des charges 2016. Voilà, donc quelle gouvernance des GEM.
Juste Carole, peut-être on laisse les personnes se présenter avant voilà, que tu commences. Merci.
Alors moi je suis Marie-Véronique Huneau, animatrice du GEM L'Éclaircie à Fontenay-aux-Roses.
Bonjour, je suis Philippe Meyer, donc je suis un militant de l'UNAFAM, comme Marianne que vous avez entendu se présenter ce matin. Et je suis à ce titre également parrain du GEM Arc-en-Ciel à Poissy, qui est largement représenté dans la salle, puisque nous avons la chance d'avoir 5 adhérents, je crois, qui lèvent la main, avec à la tête la présidence Maria, son animatrice, Marie-Pascale, et puis l'association gestionnaire, la Fondation des Amis de l'Atelier, représentée par Nicole Espaillac et Aurélie Juillet.
Alors, les modalités de gouvernance, on en a parlé ce matin, encore une fois. Qu'appelle-t-on par les modalités de gouvernance? C'est vraiment la façon dont vont être définies les règles communes de fonctionnement, comment on va les appliquer. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre fortement de ce collectif, puisqu'on décide ensemble de ces règles, on décide comment elles sont appliquées, donc ça dépend des gens qui participent à ces décisions. Et on a vu, que ça, encore une fois, que ça variait beaucoup d'un GEM à l'autre et à chaque moment du parcours du GEM. Alors l'application est très variable hein, au sein d'un GEM des adhérents. Encore une fois, il y a des personnes qui ne souhaitent venir qui viennent venir pour un café, pour des activités, qui ne veulent absolument pas se casser la tête, comme ils disent, avec autre chose. Ils voient ça, voilà. Ce qu'on a remarqué, en tout cas, dans les différents entretiens, ce qu'on a pu analyser, c'est que c'est rarement une implication, bien sûr, la première année de fréquentation du GEM. Bon, ça peut être le cas, mais c'est rarement le cas parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà un processus pour pousser la porte du GEM, et puis après, il va y avoir ce que les personnes ont exprimé comme un apprivoisement mutuel, réciproque. Et souvent, la personne va d'abord nouer un lien de confiance avec l'animateur, puisque souvent, elle a eu plutôt des expériences avec des professionnels, donc elle sera peut-être plus rassurée d'échanger avec l'animateur, et puis petit à petit... au travers du fonctionnement au quotidien, des activités, elle va développer des interactions avec d'autres adhérents. Et c'est qu'après ce moment où elle pourra envisager, quand elle aura bien compris comment ça fonctionne, etc., c'est souvent à ce moment-là qu'elle va commencer à s'intéresser éventuellement, si elle le souhaite encore une fois, à la façon dont ça fonctionne, les décisions sont prises et comment elle peut, par exemple, intégrer le CA ou le bureau, etc. Donc le cahier des charges, vous vous en souvenez, c'est vraiment l'association d'adhérents qui pilote le GEM, qui prend l'ensemble des décisions. Et après, si nécessaire, il y a des délégations de gestion. C'est vraiment un retournement par rapport au cahier des charges précédent, parce que c'est pas l'idée le GEM est géré par un organisme gestionnaire parce que c'est trop compliqué, les ressources humaines, nanana. Et après, on voit donc de quelle façon les adhérents peuvent s'investir dans les décisions. Là, on retourne les choses. On dit de toute façon, c'est l'association des adhérents qui prend les décisions. Et c'est elle qui va décider quelle mission, si elle ne s'en sent pas capable, si elle n'a pas envie à ce moment-là, encore une fois du parcours du GEM, de cette étape, si elle n'a pas envie, si elle ne le souhaite pas, si elle ne veut pas s'embêter, s'il n'y a pas les compétences actuellement, des compétences par exemple sur les salaires, etc., à un moment donné... Elle va décider de dire, on le délègue. On le délègue, mais ça ne veut pas dire on le délègue en bloc non plus. On va le voir tout à l'heure. Ça ne veut pas dire, à qui on le délègue. C'est ça qui est intéressant dans le nouveau cahier des charges, qu'il n'y a pas un gestionnaire. Il peut y avoir plusieurs délégations de gestion qui concernent des missions différentes et à différentes, comme des prestations qui sont déléguées à différents prestataires. Donc. Et puis le choix d'un parrain qui est dans ce nouveau cahier des charges et qui sépare bien les deux. Il y a ce qu'on délègue en tant que mission et puis il y a un parrain qui a une fonction particulière qui est là, lui qui ne s'occupe pas de la gestion, qui est là pour être le tiers à un moment donné quand on n'arrive pas à résoudre certains questionnements éthiques ou certaines difficultés, conflits entre le salarié, les adhérents, ou entre adhérents quand c'est vraiment compliqué, qu'on n'arrive pas ensemble à trouver une solution. Eh bien, il y a le parrain, voilà, qui est un tiers et qui vient de nous donner un œil extérieur sur les difficultés qu'on rencontre à ce moment-là. Donc dans le cadre des GEM, encore une fois pour synthétiser les choses, à un moment donné on a dit on va construire un peu une typologie de trois groupes de GEM sur le volet de la gouvernance, uniquement sur le volet de la gouvernance. Ça n'implique pas qu'il y a, vous allez voir ces trois formes de GEM, qu'il y a des bons GEM, des mauvais GEM, juste à travers la façon dont ils organisent leur gouvernance. Ça reflète là où ils en sont de l'organisation de leur gouvernance par rapport à un certain esprit du cahier des charges de 2016. Maintenant, on a l'impression d'avoir une gouvernance où il y a bien le CA, où il y a bien on a bien les adhérents qui prennent les décisions, etc. Et puis derrière, finalement, le fonctionnement n'est pas très démocratique au sein du GEM. Donc c'est des choses encore différentes. Mais ça donne une idée, c'est un des éléments, un des axes d'analyse qui est intéressant de voir comment s'organise le CA, etc. Donc il y a trois grandes formes. Il y a encore des GEM parmi les 25 GEM qui ne sont pas forcément représentatifs. On a surtout cherché un panel le plus diversifié possible. Donc il y a des GEM qui sont encore fortement dirigés, entre guillemets, de l'extérieur, c'est-à-dire le parrain ou le gestionnaire, ou souvent c'est le même, il est encore très présent. C'est-à-dire il est très présent dans le conseil d'administration, il est très présent par le fait qu'il gère, par exemple, toutes les missions, tout le financement, toutes les ressources humaines, une participation de soignants ou de professionnels du médico-social dans le quotidien du GEM, dans certains cas, ou de famille, quand, par exemple, c'est plutôt un GEM issu. Alors, ce sont des bénévoles, certes, mais ce ne sont pas n'importe quel bénévole, c'est des familles d'adhérents. Pas forcément de ces adhérents-là, bien entendu, mais en tout cas, c'est un état d'esprit qui colore différemment la gouvernance du GEM. Après, on a des GEM, à l'inverse, qui sont très très proches d'une autogestion, qui ont des modalités de gouvernance où c'est vraiment... plus vraiment de gestionnaire, ou quand on délègue quelque chose, on le verra tout à l'heure, on le délègue plutôt à du droit commun, un cabinet, par exemple, de comptable. Bon, évidemment, on ne va pas faire son bilan soi-même, quoi qu'on peut avoir un ex-expert comptable dans son GEM. Hein. Mais si on ne l'a pas, on va déléguer à un cabinet comptable, mais on va, par exemple, saisir toutes les factures, faire un certain nombre de choses, etc. Donc, où il y a vraiment on est très proche de l'autogestion. Mais ce n'est pas ce que dit le cahier des charges. Le cahier des charges, il dit la décision qui appartient. Après, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas contraire au cahier des charges que de déléguer une partie des missions du moment que c'est nous qui décidons à qui et comment et quelle partie on délègue. Et puis, la majorité, on va dire, des 25 GEM, ils se trouvaient dans l'entre-deux, donc des formes intermédiaires de gouvernance qui expérimentent des formes de gouvernance variées. Dans la mesure où il reste encore très soutenu par l'association gestionnaire ou parrain qui souvent était à la création de ce GEM, qui a été très fortement là pour mettre en place ce GEM. Et donc, on sent qu'il est encore présent. Mais en même temps, de par la volonté du groupe des adhérents et ou de la volonté très forte aussi du parrain ou de gestionnaire, il y a des tentatives aujourd'hui de, puisque ça fonctionne, puisque les gens, il y a une certaine antériorité des modalités de fonctionnement, essayent de se désengager un petit peu plus du quotidien, de la gouvernance, etc. Donc voilà grossièrement trois grosses catégories, mais encore une fois, c'est pas un palmarès de c'est bien ou c'est pas bien, c'est un constat du fonctionnement de certains GEM. L'empowerment, juste rappeler, vous le connaissez, comment ça se traduit l'empowerment des adhérents d'un GEM? Donc c'est encore pour bien afficher qu'on ne sait pas la question de l'autogestion qui est visée, mais bien de la prise de décision. C'est chercher à ce que les adhérents des GEM, d'un GEM, décident collectivement des règles qui régissent le GEM et leur application de façon autonome. C'est-à-dire que c'est eux qui décident quelles règles et c'est eux qui vont ensuite l'appliquer. Et qui sont bien sûr impliqués dans le fonctionnement au quotidien, dans les activités, les responsabilités aussi bien internes qu'extérieures. Par exemple, représenter son GEM à l'extérieur. Il y a un monsieur qui disait tout à l'heure qu'il y avait des représentations au conseil local de santé mentale ou qu'il y avait des représentants dans des groupes, c'est vous monsieur, je crois, de groupes d'usagers à l'hôpital. Représentants aux commissions des usagers au niveau départemental de la psychiatrie, c'est ça. Voilà, donc voilà, on peut... voilà. Après, ça peut aller jusqu'à l'autogestion, mais j'allais dire, c'est une modalité, la gestion. Ce qui est important, c'est la décision. Alors, après, je vais juste vous donner quelques slides sur les différents GEM. Donc, encore une fois, justement, on a pris un panel très diversifié et c'était intéressant de voir les astuces, enfin, les modalités pratiques que les uns et les autres ont mises en place pour, justement, favoriser cet empowerment. Donc déjà, il y avait la question de l'information sur les fonctions électives, leur rôle et leurs responsabilités. C'est-à-dire en dehors du fait d'occuper ces fonctions électives, encore faut-il que tous les adhérents soient informés de en quoi ça consiste, etc. Et ça, ce n'est pas vrai partout. Il n'y a pas forcément... parfois, il y a une sorte de cooptation d'emblée en disant « Lui, il a l'air d'avoir les compétences pour rentrer au bureau au ICA, il nous manque une personne, on va le voir, tu veux bien rentrer, il rentre, etc. » Voilà. Il y en a d'autres qui font autrement et qui se disent que même si, in fine, ce sera la personne qu'on a repérée qui peut-être sera la seule à être volontaire, c'est important de communiquer sur ces fonctions électives parce qu'un jour, encore une fois, on est dans un processus où un jour, encore une fois, la personne se saisit au moment où elle le souhaite, où elle se sent suffisamment forte, armée, et où ça a un sens pour elle, elle se saisit ou pas de ce qui lui est proposé. Donc il faut toujours être dans cette information. Donc par exemple, ça peut être élaborer des fiches descriptives. Il y a un GEM qui a fait des fiches descriptives pour chaque membre du bureau. Qu'est-ce que fait un président? Quelles sont ses responsabilités? Concrètement, combien de jours ça le mobilise, etc., etc. Pareil pour le trésorier, etc. D'autres ont décidé que tout adhérent pouvait et encourager les adhérents à venir assister à des CA ou des bureaux en tant qu'observateur, pour se donner une idée. Parce que d'emblée, il y avait des gens qui disaient « Oh là là, non, ça a l'air compliqué, je ne vais pas être capable, etc. » On lui dit « Mais viens, assiste à une réunion de bureau ou de CA, et après tu te feras ton idée. » Il y a des formations, vous l'avez dit aussi dans la salle ce matin, il y a des formations qui ont été faites en interne sur la gestion d'une association loi 1901. Donc quand on comprend mieux comment fonctionne une loi 1901, encore une fois, avec ses instances, ses responsabilités, etc., ça dédramatise parfois les choses. Ou encore, il y a une initiative que j'ai trouvée tout à fait intéressante. Il y a un groupe du travail avec les membres du CA, parce que souvent ça repose que sur quelques personnes, le président ou le trésorier, etc., qui a dit, ben, nous on est un groupe, on est un CA, alors on va faire un groupe de travail et tout le monde va écrire sur une feuille ce que je sais faire, ce que je veux faire, parce que parfois je sais faire, mais je n'ai pas envie de le faire, parce que c'est bon, j'ai travaillé, vous, madame, si vous avez envie de le faire, vous avez envie de le faire, mais il y a des gens qui disent non, moi je l'ai fait toute ma vie, je n'ai pas du tout envie de refaire ça. Donc ce que je sais faire, ce que je veux faire, ce que je ne veux pas faire, et comment déléguer. Donc là, un vrai travail pour que chaque membre du CA se pose la question finalement de sur quoi il est prêt à s'impliquer, et d'une façon générale aussi identifier les compétences complémentaires de très riches qu'il y a au sein du groupe. Après, il y a l'organisation des élections. Donc, on informe, mais après, l'organisation, c'est pareil. Si ça se fait de façon très formelle, vous mettez les billets, mais que les gens ne le savent pas tellement à l'avance, etc. Voilà. Donc, il y a aussi, là aussi, des astuces pour faire participer un maximum d'adhérents en créant un schéma qui explique les différentes instances de l'association, le nombre de places à occuper, ou encore distribuer à chaque adhérent un coupon de candidature, ou encore il peut y avoir un appel à candidature pour voie d'affichage. Il y a eu quelque chose d'assez drôle qui était une campagne électorale avec un affichage pour chaque candidat de sa photo, du poste convoité et un slogan ou une phrase rigolote pour se définir ou parler de la façon dont il voit son futur rôle. Voilà, donc c'est des exemples, bien entendu. Ou alors, vraiment être dans un vote à bulletin secret avec près du matériel officiel de la mairie pour rendre les choses beaucoup plus formelles. Voilà, donc en fait, ce qui est dit dans tous ces exemples, c'est faire vraiment du moment de l'élection un moment important, un moment formel, un moment important dans le fonctionnement démocratique du GEM. Après, il y a aussi la question, parce que dans les entretiens, on avait beaucoup de choses qui étaient, notamment puisqu'on avait des gens qui s'occupaient de la gouvernance. Oui, mais c'est épuisant, ça repose sur une personne, il y a des risques de décompensation quand ça devient trop lourd, etc., etc. Donc, collectivement, certains GEM se sont posé la question en se demandant mais comment rassurer ou comment ne pas épuiser des personnes qui occupent des fonctions électives qui sont un peu, voilà, qui peuvent vous mettre a priori un peu plus au devant de la scène, comme président, trésorier, etc. Donc pareil, il y en a qui ont systématisé la double représentation, c'est-à-dire il y a toujours vice-président et président et vice-président, mais pas de façon sur le papier. Vraiment, en gros, on se présente à deux, quoi. On est vraiment le binôme du président et puis le binôme du secrétaire. Alors ça, c'est le cas sans doute dans certains de vos GEM. Remplacé par, il y a un GEM qui a remplacé le bureau par 5 coprésidents, pour pas qu'il y en ait un qui se sente moins impliqué que les autres. Il y a supprimé le bureau et prévoir une réunion de CA chaque mois, parce que dans la loi 1920, il n'y a pas d'obligation d'avoir un bureau, mais par contre d'avoir un CA. Limiter le mandat du CA à un an, afficher que c'est pour un an. Donc bon, vous ne prenez pas un engagement trop fort, donc ça peut rassurer. Encore une fois, c'est une astuce. Il y a des formations. Alors ça, c'est intéressant. Vous parliez des formations ce matin. Il y en a qui ont fait des formations sur la question de la responsabilité. Il y en a qui ont fait des formations sur la prise de parole en public. Ça rassure. Il y en a sur la médiation et la gestion des conflits. Il y en a sur le premier secours. Enfin, plein de formations qui permettent un peu de rassurer par rapport à, comme ça, une fonction représentative au sein d'un collectif. Et puis, il y a le tutorat et l'accompagnement aux fonctions électives. C'est ce que disait l'animateur de Bretagne, qui disait qu'au début, la personne... elle fait 10% du compte-rendu et l'animateur fait le reste, etc. Et puis à un moment donné, elle fait 20%. Et puis après la personne a fait le compte-rendu toute seule du bureau, etc. Donc il y a aussi l'animateur, d'autres pairs peuvent être là, ou voir l'association parraine, etc. Marraine peut aussi appuyer ce rôle. Voilà. Il y a associé aussi le nombre d'adhérents aux décisions prises au-delà des fonctions représentatives. Parce que ça ne s'arrête pas, la participation des adhérents ne s'arrête pas aux seules fonctions officielles de CA et de bureau. Donc il y a d'autres instances de consultation, il y a des GEM comme ça qui systématiquement après chaque bureau ou chaque CA fait un groupe de parole où ils viennent restituer ce qu'ils ont dit au bureau, ils viennent discuter des décisions qu'ils ont prises. Bon, ils ont pris des décisions, mais au moins ils viennent s'en parler, ou après coup ils disent alors est-ce que ça s'est avéré judicieux, etc. Donc du coup on est vraiment dans un fonctionnement démocratique. Et puis il y a dissocier souvent des décisions, parce que souvent on prend toutes les décisions CA alors qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de décisions d'un organe officiel, mais qui sont des décisions qui sont du courant et qui ne passent pas forcément par le CA, mais qui peuvent vraiment se décider tous ensemble. Alors, ce qui est important aussi, donc ça je vais le dire rapidement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la notion de délégation de gestion, ce qui est aussi ce renversement, c'est de se dire, c'est pas il y a l'organisme gestionnaire qui gère tout ou rien, on est dans le taux de gestion. Il y a y compris par thématique, hein, par exemple par le financement du GEM, on n'est pas obligé de se dire soit je gère tout le financement, soit je gère rien. On peut très bien se dire ok, la signature de la convention ARS, la gestion financière des dépenses variables, voilà, nous, les dépenses fixes, c'est l'association, c'est une délégation de gestion. Par contre, les dépenses variables, c'est en interne, c'est nous qui, c'est le président, le trésorier, etc., qui gère ça. Ou la gestion du budget activité. De même, si je ne veux pas avoir une carte bleue, c'est trop de responsabilité, on peut avoir une carte de retrait. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Et idem pour la gestion comptable. Il y a des GEM, ils ont un cabinet comptable, mais ils saisissent les factures. Donc ils voient d'une certaine façon bien, ils identifient bien tout ce qui passe, voilà. Pareil pour les ressources humaines, on peut ne serait-ce qu'imprimer les feuilles de paye alors qu'elles viennent de l'extérieur, etc. Enfin, il y a plein de petites choses. Encore une fois, on est dans quelque chose d'une palette comme ça très, très large. Il ne faut pas s'arrêter à du tout ou rien. Et puis, ce qui n'est pas neutre, c'est à qui on délègue. Parce qu'on voit que les GEM qui sont le plus dans une approche vraiment de prise de décision, d'empowerment, eh bien, ils vont choisir le plus souvent de déléguer des tâches à des acteurs de droit commun. Parce que ce n'est pas la même chose que de déléguer sa compta à un cabinet comptable, qui est votre prestataire que vous payez et qui, en gros, il a plutôt intérêt à obtempérer, sinon vous allez changer de cabinet comptable, à un organisme gestionnaire qui était éventuellement qui était à l'origine de la création du GEM, etc. Vous n'allez pas lui demander de vérifier ce qu'il a fait, etc. Voilà, c'est plus délicat. Donc on voit notamment que la question de à qui on délègue ce morceau de mission, eh bien ça change tout. Et puis le choix du parrain, pour finir, témoigne aussi du projet associatif du GEM. Et justement, la plus ou moins grande émancipation du GEM par rapport à ce processus historique qui a prévalu à sa construction. Alors, plusieurs GEM comme ça ont dans les 10 dernières années, changé de parrain. Donc, ce n'est pas hasard. C'est aussi une étape particulière du parcours du GEM. Il y a des GEM qui ont choisi de prendre comme parrain une fédération nationale de GEM, parfois qui était à distance, donc qui pour lesquels ils attendaient moins finalement une fonction de médiation que parfois aller représenter au niveau national, plutôt dans une posture de visibilité nationale, de lobbying, etc. Et puis, pour finir, c'est la dernière slide, la prise de pouvoir des adhérents, elle passe aussi par des actions concrètes, des initiatives que vont prendre les uns et les autres, et le fait de s'ouvrir sur l'environnement. C'est la dernière slide.
Ouais, je me suis rapprochée pour mettre la pression.
Ouais. ça marche. Donc, notamment, l'ouverture des locaux ou des activités collectives extérieures, sorties ou séjours de vacances sans animateur. Ça aussi, c'est des expériences de vie, des expériences du groupe, du collectif d'entraide, qui sont aussi une prise de pouvoir des adhérents. Ça ne passe pas uniquement non plus par comment est composé le CA, le bureau, etc. Ça peut être la présentation, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, du GEM aux acteurs du territoire. Ça peut être participer à des manifestations locales pour changer le regard, déstigmatiser. On fait partie de la fête de la municipalité, on est là pour la réunion des associations, etc. Ou encore, ça peut être intervenir dans des formations qualifiantes. Ça a été le cas de certains GEM qu'on a rencontrés qui intervenaient dans des formations d'éducateurs spécialisés ou d'assistants de services sociaux. Et puis enfin, on le disait tout à l'heure, donc siéger dans les instances de consultation.
Ah, merci Carole. Alors, pour illustrer ce que vient de dire Carole, je vais laisser la parole à Marie-Véronique, que je tenais à remercier ainsi que son GEM, puisqu'ils ont assuré avec le CNIGEM l'ensemble des inscriptions de cette journée. Donc, on a très bien collaboré. Merci beaucoup.
Alors, bonjour à tous. Le GEM L'Éclaircie de Fontenay-aux-Roses a été créé en 2009 par Vivre, association qui gère des établissements et services médico-sociaux, qui était parrain et gestionnaire. À la suite du nouveau cahier des charges arrêté au 18 mars 2016, le GEM L'Éclaircie a procédé à la séparation du parrain et du gestionnaire pour se mettre en conformité avec la loi. Vivre est resté parrain et on a pris un prestataire de service, à savoir un cabinet d'experts comptables, Carré Expert. L'association constitutive du GEM s'autogère. On établit les demandes de subvention, les fiches de paie, la gestion des ressources humaines et financières du GEM. Le parrain est là en cas de problème en tant que médiateur. On le voit à l'Assemblée générale. On est devenu ainsi une association loi 1901 ordinaire. L'ensemble des adhérents participent au fonctionnement du GEM. Le conseil du GEM se réunit une fois par semaine pour écouter les observations des adhérents et rendre compte. Les décisions importantes sont prises en Assemblée générale extraordinaire. Le conseil d'administration se réunit tous les deux mois et les réunions de bureau tous les mois. Le président François Bourges applique les décisions du conseil d'administration. Il est par ailleurs président du CNIGEM, excusé aujourd'hui.
Merci. Alors, on va continuer cette illustration par Philippe, qui va nous parler du rôle de parrain.
De quoi vais-je parler?
Du rôle de parrain dans cette nouvelle forme de gouvernance, comment il le voit.
Oui, je vous ferai une présentation un peu moins complète que de l'a fait ma collègue sur le GEM arc-en-ciel, car comme je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais vous le dire, en fait, je suis un vieux, mais je suis un jeune parrain. J'ai pris ces fonctions de parrain en mars de cette année, donc la convention de parrainage a été signée cette année avec le GEM arc-en-ciel de Poissy, et pour moi, c'est comme un nouveau métier. Je découvre la complexité et la richesse de ce rôle de parrain qui nous est dévolu à l'UNAFAM. La première des choses que je voudrais dire, c'est que j'ai mon premier questionnement, ça a été de dire, mais comment aborder ce rôle de parrain, alors que, bien que Marianne ce matin ait dit que l'UNAFAM apportait de la formation en amont à ses parrains, c'est un peu vrai, mais pas complètement vrai. C'est-à-dire que on découvre et on apprend en faisant. Et assez vite, j'ai éprouvé le besoin d'aller me former un petit peu à ce qu'était un GEM et à ce qui était attendu du parrain. Et j'ai pu profiter, donc, au mois de septembre, des deux journées de formation organisées conjointement par le CNIGEM et l'ANCREI. Et à cette occasion, si je n'ai pas tout découvert, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de membres de GEM, j'ai rencontré beaucoup d'animateurs de GEM. Je n'ai pas rencontré le parrain, beaucoup de parrains. J'étais le seul, je crois, à cette formation. Mais ça a permis d'alimenter mon regard sur la façon dont un GEM pouvait exister, pouvait fonctionner. La problématique, moi, qui m'interpelle le plus en tant que parrain, c'est une question qui a été abordée tout au long de la journée. Hein, donc, je n'ai pas inventé l'eau chaude, mais c'est vraiment celle de comment faire pour que les membres qui fréquentent les GEM prennent de plus en plus d'initiatives, augmentent leur autonomie dans un cadre serein et qui va favoriser cette prise d'autonomie. Et je me rends compte, au fur et à mesure que je fréquente le GEM arc-en-ciel de Poissy, combien c'est difficile. Et combien c'est difficile pour le GEM lui-même, pour son animateur, en l'occurrence à Poissy, une animatrice, de trouver les outils, les moyens de mettre en œuvre ce qu'il faudrait faire donc pour accéder à plus d'autonomie. Alors, ce que je peux soulever là aujourd'hui au travers de ce que j'ai pu voir, c'est la difficulté, par exemple, pour prendre une décision dans un GEM, de réunir tous les membres du GEM. En fait, compte tenu de ce qu'est un GEM, les gens y viennent ou pas, les gens viennent régulièrement ou pas, et lorsqu'on est amené à discuter, à débattre d'une décision, très souvent, dans un premier temps, elle va se faire en comité réduit à les 3 ou 4 personnes qui fréquentent le GEM ce jour-là. Et puis, si on ne fait pas l'effort d'aller consulter, d'aller interroger les autres membres qui ne seront pas là ce jour-là, on risque de prendre ou bien des décisions qui ne seront pas tout à fait adaptées ou, à la limite, de ne pas pouvoir prendre de décision. Et c'est vraiment cette question du fonctionnement démocratique du GEM et de la comment faire pour que tous les membres puissent être associés et puissent grandir, prendre de l'autonomie au sein du GEM, qui constitue une de mes interrogations principales aujourd'hui. Voilà le message que je souhaitais passer en tant que parrain. Sinon, tout a été dit, ou à peu près tout, sur le rôle du parrain, le parrain médiateur en cas de conflit, effectivement, et puis le parrain garant également de la bonne application du cahier des charges. Et là, c'est aussi, c'est une partie aussi très importante et qui demande du temps d'apprentissage également. Et j'en suis qu'à mes tout débuts.
Merci. On a un petit peu de temps pour des réactions. Steph, monsieur, après.
Bonjour, je voulais juste réagir sur la toute dernière intervention, parce que finalement, depuis le début de la journée, on parle effectivement des fois des oppositions, des incohérences parfois qui peuvent avoir entre finalement un cahier des charges qui pose un cadre. Après, on voit bien que individuellement, chaque GEM a une certaine liberté de gestion et d'organisation interne. D'ailleurs, on a bien vu à un moment donné que effectivement, est-ce qu'on fait le même type de handicap, parce que d'un côté on dit c'est bien d'accueillir et finalement c'est un écosystème à construire. Il y a certainement des GEM qui fonctionnent très bien dans la pluralité, d'autres pour qui c'est plus compliqué. Donc il faut laisser tout simplement peut-être cette liberté de fonctionnement en fonction des besoins locaux des personnes finalement qui créent leur GEM. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'à chaque fois, les arguments ou les réflexions finalement sur le cahier des charges sont peut-être pas suffisamment assez axés sur ce que vous exprimez, qui est l'autonomie de pensée. On a parlé beaucoup de formation. Quand on parle d'autonomie, quand on évalue une personne en situation de handicap en termes d'autonomie, il y a beaucoup de tests qui sont standardisés où on nous parle de notre autonomie personnelle, familiale et sociale. Mais l'autonomie de pensée, on n'en parle pas. On a parlé des formations des salariés. Comment est-ce qu'on accompagne les personnes elles-mêmes avec des profils très différents, des aptitudes très différentes dans l'autodétermination? Comment est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi finalement amener les GEM à accueillir un public plus diversifié? Parce que j'entendais la question à un moment donné de la déficience intellectuelle ou pas, dans le handicap psychique ou chez des traumatisés crâniens qui ont peut-être plus des fois de difficultés cognitives. Nous, dans l'autisme, de toute façon, c'est une réalité. Le spectre est tellement large qu'on va devoir forcément répondre à un public diversifié. Il n'est pas question que les GEM soient uniquement l'apanage des personnes à haut niveau de fonctionnement. Donc, quand ça marche bien, est-ce que ça marche bien aussi parce que finalement, il y a des personnes qui ont suffisamment d'autonomie et de pouvoir, finalement, de choisir et de décision. Et quand ce n'est pas le cas, comment on nous accompagne ?
Alors, c'est une partie de la réponse, la formation qui a eu lieu, enfin, qui a toujours eu lieu dans les différentes régions, puisque c'est vraiment destiné aux adhérents de GEM, mais c'est le tout début. Tout à fait.
Bonjour, Jean-Christophe Giron, adhérent du GEM de l'Accordé, vice-président. Par rapport à ce que vous avez dit, les adhérents membres du bureau ont le droit de choisir le salarié à un moment donné dans le cahier des charges. Ce n'est pas une contre-vérité, parce que ça pourrait amener des tensions au sein des personnes.
C'est à parler à Dominique, peut-être, tu veux répondre, Dominique ?
Oui, dans le cahier des charges, donc, est mis en valeur le fonctionnement associatif. Et dans n'importe quelle association, les GEM, donc, y compris l'association, a le libre choix de choisir et de recruter les salariés qu'elle emploie. Alors évidemment, ça se fait avec précaution et dans certaines règles et dans certaines formes. Parce qu'évidemment, on a vu le cas, effectivement, où certains GEM veulent se saisir de ce pouvoir, mais au détriment quasiment du salarié qui devient corvéable. Et donc, il faut vraiment se faire accompagner en général. Enfin, on prend cette précaution dans les associations ordinaires. De la même manière, quand on recrute un salarié, il faut effectivement respecter les règles de droit et puis voir quelle est la fiche de poste, etc. Alors, ce qui est prévu dans le cahier des charges, c'est effectivement de faire en sorte de s'approcher au maximum du fonctionnement des associations de la cité. Et donc, à ce titre-là, c'est normalement, à terme, les GEM qui devront recruter leurs salariés. Mais bien entendu, on en est encore assez loin. Puisque, comme on l'a vu, la plupart des GEM ont des salariés qui leur ont été délégués, attribués, qui sont employés par un gestionnaire qui met à disposition. Et effectivement, on l'a évoqué ce matin, le passage de ce fonctionnement, un fonctionnement où l'association GEM va être totalement autonome et va recruter son salarié, ce n'est pas sans difficulté, sans problème, et ça demande d'y réfléchir avec précaution pour ne pas nuire. C'est quelque chose que je répète souvent pour les GEM, comme pour tout le monde d'ailleurs. D'abord, ne pas nuire, c'est-à-dire essayer de comprendre, dans quel fonctionnement on est. Ce fonctionnement, il n'est peut-être pas celui qui serait le meilleur, et il faut aller vers un autre fonctionnement, mais en prenant les précautions, effectivement, de ne nuire à qui que ce soit dans le passage vers le cahier des charges tel qu'il est indiqué.
Et encore une fois, moi, je voudrais rajouter que dans cette question de recrutement, encore une fois, c'est pas, ça peut aller de travailler sur la fiche de poste, sachant qu'il y a une annexe là, dans le cahier des charges, mais qui est quand même assez succincte. Hein, voilà, c'est une ébauche de fiche de poste. Ça peut être déjà un travail autour de, à partir de cette fiche de poste et dire ce qui est le plus important pour le collectif, tel et tel élément de la fiche de poste, en rajouter, en enlever. Encore une fois, ça ne veut pas dire assurer le recrutement de A à Z. Enfin, encore une fois, on peut s'approprier une partie du processus ou être associé à une partie du processus de recrutement et pas d'emblée évacuer cette question en disant soit nous on ne sait pas faire, soit c'est trop délicat, etc. C'est vraiment se poser les questions des conditions. Et comme le disait Dominique Lona, vraiment des conditions pour que je puisse influer, intervenir dans le recrutement sans que ça mette en péril l'équilibre ou que ça crée plus tard des positions de pouvoir qui seraient préjudiciables à la gestion du collectif.
Bon, Jean-Michel du GEM du Chesnay, une petite question en fait pour les animateurs. Il y avait eu aussi une petite voix qui nous portait en fait pour savoir si deux animateurs ou deux animatrices disons, de personnes salariées au GEM, ce serait possible parce que apparemment, un animateur dans un GEM, c'est un peu juste quoi, au niveau poste.
Oui, rebonjour, Michel Beb. Je suis déjà intervenu ce matin. Moi, je représente une association gestionnaire donc, que l'ARS vient de charger de créer un GEM. Et je dis ça volontairement parce que c'est un problème qui va se poser puisqu'on nous a annoncé un gros, gros programme de création de GEM. Et là, on nous parle beaucoup d'associations qui se seraient créées qui aurait été créé par les adhérents. Donc ça, c'est pas la vraie vie en ce qui concerne la création des GEM. Ça commence, on y entre au bout de quelques années, j'imagine, dans le fonctionnement ordinaire, je dirais normal. Dans la vraie vie, surtout, des nouveaux GEM, et il va y en avoir beaucoup, c'est pour ça que cette question se pose, c'est que l'association gestionnaire reste forcément extrêmement importante dans un premier temps. Je rappelle tout de même que lorsque l'on crée un GEM, il y a un temps assez long, pour devoir créer l'association elle-même. Donc si le législateur a prévu ce temps, c'est 2 ou 3 ans, je crois, délai minimum pour que l'association se crée de fait. Pardon ?
Oui,
c'est ça. Maximum, oui, j'entends bien. Donc il faut le faire au plus vite. Mais ce que je voudrais avoir comme éclairage, c'est quel est le bon fonctionnement hormis la bonne volonté et le fait démocratique et républicain ancré dans l'esprit des associations gestionnaires. Comment fait-on pour éviter tous ces écueils de prise de pouvoir de fait de l'association gestionnaire lorsque l'on crée des GEM, justement? Parce que là, on nous a expliqué le fonctionnement de GEM qui ont un vécu déjà.
Comme on le disait, ils sont tous passés par des étapes différentes. Mais aujourd'hui, les GEM qui se créent ne vont pas être non plus à la même étape que les GEM qui se sont créés il y a 10 ans, parce qu'ils bénéficient aussi de l'expérience des autres. Donc vous pouvez aussi vous faire... Si vous avez un GEM sur votre territoire, vous l'avez fait. Très bien. Et voilà...
Oui, d'abord, la plupart des GEM que je connais, moi, dans la région lyonnaise... Ils sont tous constitués en association, ou nord-isèroise, ils sont tous constitués en association. Il n'y a pas d'exception que je connaisse, en tout cas dans la région où je vis. Une question que je voulais poser, moi, c'est le fait que souvent les subventions sont versées tardivement, font que beaucoup de GEM n'ont pas les ressources financières pour financer pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Des GEM de la région lyonnaise avec qui j'ai parlé récemment, ils n'ont pas encore reçu la subvention. Donc, ne peuvent pas recruter, en réalité. Donc, ils sont obligés de demander à un tiers de recruter. Alors, est-ce que ça n'a pas ça une incidence, évidemment, sur la gouvernance, sur la gestion et sur la gouvernance ? Est-ce que ce n'est pas une des choses qu'il faudrait peut-être demander à la CNSA, au ministère, à la DGCS, de changer pour permettre précisément à davantage de GEM d'avoir plus d'autonomie dans la gestion et la gouvernance. Et puis une toute petite observation sur l'étude d'impact. Vous avez dit, enfin l'étude d'impact, la cohorte dont vous parliez tout à l'heure, vous disiez, on s'interroge toujours, est-ce qu'il faut demander ça et qui coûterait peut-être 10 fois le coût d'un GEM. Attention, ce n'est pas forcément l'enveloppe des GEM qui pourrait financer une telle étude de cohorte. Donc il faut faire attention quand on dit ça. On pourrait trouver un peu d'argent ailleurs, Santé publique France, que sais-je. Hein, divers financements sont possibles. Donc, parce que je pense que c'est très important de faire des études d'impact. On lance, nous, avec l'UNAFAM et l'INFIP, un programme premier secours en santé mentale. D'emblée, on va prévoir une étude d'impact.
On a encore le temps pour une question, une intervention.
Alors moi, je voulais juste répondre sur le versement des subventions pour les groupes d'entraide mutuelle. La difficulté que vous évoquez, elle est réelle. Nous, elle nous a été remontée à l'agence. Et cette année, on a décidé de changer la durée des conventions et de les sécuriser sur 3 ans. Donc, je ne me souviens plus des modalités de versement qu'on a finalement choisi de mettre en place, si c'est avec 2 versements dans l'année, 3 versements dans l'année, ou si c'est par 12e avec une partie chaque mois. Mais l'idée, c'est que quand on... Voilà, je ne me souviens plus de ce qu'on a fait. C'est par 12e ? Eh bien... Donc, on a choisi la meilleure option par 12e. Et du coup, effectivement, on espère que ça va fluidifier pour le fonctionnement des GEM et éviter les difficultés qui se posaient pour le recrutement, pour les versements d'attente.
Bientôt. Merci. Je pense que... On va laisser encore une...
Une toute petite observation tout de même sur la gouvernance. Finalement, dans la journée d'aujourd'hui, je pense que les présidents de GEM et les administrateurs de GEM ont été très timides parce qu'à la tribune, il n'y a eu que des animateurs, des parrains et des gestionnaires.
Alors, je peux répondre là-dessus ? Ouais. Ah oui, alors l'intervention, c'était que certainement les adhérents, les présidents, les trésoriers avaient été très timides parce qu'à la tribune, il n'y avait que des parrains et des gestionnaires. Et des animateurs, voilà. L'idée, c'est que vraiment, il y a des adhérents, des membres du bureau. Je pense que tout le monde a fait un peu ce qu'il a pu pour les mobiliser. Et ça a été difficile à faire. Les gens n'ont pas pu venir pour telle ou telle raison. C'est pour ça que certains ont lu des illustrations. Voilà. Après, on peut toujours continuer. Mais l'idée, elle était là. C'est que les gens puissent être à la tribune aussi. C'était tout à fait l'idée.
Et puis l'idée, c'est qu'il y ait un échange, enfin, que ce soit quand même très interactif avec la salle, où là, pour le coup, les adhérents sont là.
Une question.
Lily. Oui, je peux préciser par rapport à ce qui vient de se dire, c'est qu'avant d'être animatrice, je suis animatrice depuis le 1er octobre, mais avant, j'étais vice-présidente, donc membre à part entière du GEM L'Éclaircie. Voilà, donc ça illustre nos propos.
Merci.
En fait, moi, personnellement, je suis trésorier à l'Arc-en-Ciel de Poissy, mais je ne suis pas très fan d'être sur les podiums. Désolé.
Bon, bah, merci à tous. Encore ? On a la dernière, Carole, parce que on n'a plus le temps après.
Alors moi, je vais revenir juste sur un petit point. Je suis, comme on dit, je ne vais pas dire animatrice du GEM de hémisphérique à Vanves. Je parlerai plutôt d'une coordinatrice, pas une animatrice. Parce qu'une coordinatrice, ça gère énormément de choses. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'animation, les activités avec tout le monde, mais c'est aussi participer aux tâches ménagères, être vraiment comme si on était à la maison, c'est-à-dire savoir tout faire. Donc, c'est multifonction. Et le terme d'animateur me gêne un petit peu, effectivement. Je pense que le rôle de notre rôle, effectivement, c'est plutôt coordinateur. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à gérer.
Allez, c'est toi, c'est la dernière.
Merci. Donc moi, je suis Estelle, je suis coprésidente du GEM Le Passage de Pontivy et je voulais témoigner de la gouvernance que l'on a pu avoir. Alors c'est un GEM qui a déjà 12-13 ans, donc il est vieux. Et donc en fait, on s'est fédéré en coprésident, co-trésorier, co-secrétaire. On est 6 personnes sur ces 3 postes, ce qui nous permet de déléguer, de s'entraider. Et puis, le CA se réunit, donc il y a 15 membres du conseil collégial, c'est comme ça qu'on a voulu l'appeler, 15 membres qui se réunissent une fois tous les 3 semaines pour prendre les grands axes pour gouverner les grands axes de l'association. Et bah, parallèlement à ça, il y a trois commissions. Une commission budget, une commission activité loisirs et une commission papotage.com qui fait le lien avec la communication extérieure. Et on invite tous les membres, tous les adhérents du GEM à venir à ces commissions pour prendre des décisions avec des membres du CR. Voilà.